Eh bien, c'est le psaume 32, mes amis. J'en fais la lecture avec vous, ce psaume magnifique de David. On dit que saint Augustin, dont la jeunesse n'a pas été très fameuse, puisqu'il a connu la débauche, il a même eu un enfant, avant d'être un homme de Dieu voué à son Église. Et dans sa chambre, il avait fait écrire, sûrement sur un parchemin, le psaume 32 qu'il avait mis face à son lit. Et il le lisait tous les jours, car pour lui, ce psaume représentait le nettoyage, le renouveau de sa vie. On va le lire, même s'il n'est pas la tête de votre lit. Lisons le psaume 32, psaume de David, cantique, exactement en hébreu, pour devenir intelligent, cantique, pour devenir intelligent. Heureux celui à qui la transgression est remise, ou qu'elle est enlevée, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi et tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Heureux celui dont la transgression est remise, enlevée, ôtée. On aime bien qu'on nous parle de bonheur, non ? Pas seulement pour nous dire qu'on baisse nos impôts, mais pour nous dire aussi qu'il y a peut-être beaucoup de belles choses à vivre. Mais comme nous nous trompons sur le bonheur, beaucoup de gens pensent que le bonheur, c'est avoir le dernier portable sorti, la dernière voiture sortie, dernier téléviseur. Mais le bonheur n'est pas dans les choses qui sont autour de nous, il est dans ce qui est en nous. Les choses ne rentrent pas dans notre esprit, dans notre cœur. C'est autre chose, le bonheur. Le psaume dit, le bonheur, c'est quand le péché est enlevé. Le péché peut détruire beaucoup de choses. Des familles sur des générations à venir. Il peut détruire tout le cours de la vie. Il peut détruire tous les plus beaux projets. Le péché, c'est comme une mouche morte dans l'huile du parfumeur, dit l'Ecclésiaste. Une petite mouche qui va empoisonner tout le parfum du parfumeur. Le péché peut empoisonner toute votre vie. Comment se libérer ? Faut-il faire des efforts psychologiques ? Suivre une thérapie ? Une psychanalyse, lire certains livres, faire des cours par correspondance. Il faut s'adresser à Dieu, qui est le créateur de notre âme, qui est le plus magnifique réparateur, Dieu. Il faut avouer, il faut faire sortir le mal et le porter dans une prière avec des mots devant les yeux du Seigneur. C'est l'histoire du psaume 32. Heureux celui à qui le péché est enlevé. Donc le bonheur est dans une réconciliation avec Dieu. Le bonheur est donné par Dieu. Ce n'est pas des efforts que nous faisons. C'est Dieu qui donne le bonheur. Quand le péché est enlevé, quand le péché est couvert, quand Dieu ne tient plus compte du péché, un péché qui n'est pas imputé, ça veut dire je ne le note pas sur ton compte. Je n'en tiens pas compte. Il n'existe plus pour moi. N'en parlons plus. Et quand le péché n'est plus pris en compte par Dieu, devant lequel nous rendrons justement des comptes, alors c'est un pardon définitif. C'est un bonheur. Une des plus grandes tragédies dans le monde, c'est le péché. Derrière chaque guerre, derrière chaque violence, chaque crime, chaque souffrance, il y a le péché. Le péché détruit l'harmonie sur la terre, entre les hommes et Dieu, entre les hommes et les animaux, entre tout. Mais il y a la promesse d'une réparation. Le principal, David le dit, heureux celui dont l'esprit n'a pas de fraude. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Pas de fraude, ça veut dire qu'il est sincère. Il reconnaît son péché. Oui, je me suis trompé. Il reconnaît ses défaillances. Il ne cache pas ses fautes à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il en parle à tous ses voisins, qu'il en parle autour de lui. Mais il ne les cache pas à sa conscience et à Dieu. C'est la loyauté qui est d'un grand prix pour aller vers Dieu. C'est la vérité, c'est l'esprit de vérité. Comme le brigand sur la croix qui disait « Seigneur, nous faisons appel à Jules César parce que nous sommes innocents. Non ?» Le brigand sur la croix a dit « Pour nous, c'est justice. Nous méritons ce que nous avons fait, ce que nous avons commis comme crime. » Le prix de la loyauté, de la vérité pour aller jusqu'à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Que voulez-vous lui cacher? Si vous lui cachez quelque chose, vous mentez à Dieu. Donc le bonheur, il est pour les cœurs loyaux, pour les cœurs purs, ou plutôt purifiés. Parce que qui peut être pur? Si Dieu même, dit la Bible, ne voit pas de la pureté dans ses anges, qui peut être pur? Qui peut dire « Je suis net de tout péché, je suis pur » Le bonheur est pour ceux qui vont vers Dieu pour être purifiés, qui avouent leur faute et dont la faute ainsi est enlevée. Mais David a commis une faute, laquelle, je vous rappelle, je ne sais pas. Ce n'est pas écrit. Certains ont dit, oui, c'est la faute avec la femme, sa voisine, etc. On va vite, les langues vont vite. Ça parle dans les maisons. Hein. Mais là, on ne sait pas quelle faute il a commise. Mais il a mis du temps à avouer à Dieu. Parce que les journées se passaient et il ne cessait de gémisser. De gémir. Les journées passaient et il gémissait. Pourquoi a-t-il tardé? Peut-être par ignorance, peut-être parce qu'il était inconscient du mal qu'il avait commis, et ce mal le ravageait, le détruisait. Est-ce par orgueil, en disant « je m'en sortirai moi-même, je ne vais pas avouer comme ça mes faiblesses à Dieu ». Mais il gémit, il crie, mais il ne prie pas. On peut crier sur ses douleurs sans prier. Il ne dit pas son vrai problème. Il pleure sur lui-même, mais il oublie l'essentiel. C'est de crier à Dieu. C'est d'aller vers Dieu. Puis le temps passe et il est accablé, il gémit. Son péché le torture l'esprit, l'âme, il est accablé, il est épuisé, il est comme malade. Et ses yeux s'ouvrent. Les souffrances peuvent nous ouvrir les yeux. Chez certains, les souffrances ferment les yeux. Chez David, son accablement de remords, de regrets, qui a touché même sa santé, parce qu'on voit bien qu'il est épuisé, lui a ouvert les yeux. Il disait « Mes os se consumaient ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire, dans la façon de parler des Hébreux, « Mon corps se défait ». Il y a comme une faute qui le travaille tellement, qui le ronge tellement que son corps et sa vie se défait, son corps est tout chancelant. Peut-être qu'il ne mange plus, peut-être qu'il ne dort plus, peut-être qu'il n'a plus de plaisir en rien. Son vrai péché, c'est de ne pas confesser son péché. C'est ça le vrai péché. Le vrai péché, c'est de ne pas apporter notre péché à Dieu. Et il dit, ta main s'appesantissait sur moi. Ce qui veut dire que la main de Dieu, qu'il connaissait, qui était son bonheur, quand on dit que là, je suis dans la main de Dieu, eh bien cette main qui était son bonheur lui semblait lourde. Il y a des gens qui ont commis des péchés, c'est importable ou c'est les pompiers ? Certains ont commis des fautes et seulement la lecture de la Bible parfois leur semblait pesante parce qu'elle semblait parfois les reprendre. La main de Dieu semblait s'appesantir sur lui comme si Dieu l'arrêtait. La main de Dieu, c'est ce remords, c'est ce tourment, c'est cette angoisse qu'il ressent au fond de sa conscience, souillé. Est-il malade ? Vous savez, le péché a sa propre punition. Certains commettent des péchés et en sont malades. Si quelqu'un le fume, il va finir malade. Même dans les péchés de moralité, il y a dans ce péché une propre punition qui affecte notre intelligence. Alors il peut réfléchir. L'Ecclésiaste dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis si tout va bien. Puisque ta vie s'arrête, puisque tu n'es pas devant les vitrines et devant la télé, là tu es devant quelque chose qui te fait mal, réfléchis. Donc la plus grande faute, c'est de cacher sa faute, de la couvrir nous-mêmes, de ne pas ouvrir son cœur au Dieu qui pardonne, au seul qui peut nous réparer. Et David a passé cette étape-là. Il se tait. Tant que je me suis tu, j'ai l'impression que là, il veut nous dire, j'ai passé des jours, et je me suis tu. J'ai attendu, je ne sais pas quoi. J'ai attendu et je me suis rendu malade. Et tout à coup, je souhaite que ce soit votre expérience aujourd'hui, il commence à préparer son aveu. J'ai dit, j'avouerai, futur, j'avouerai mes transgressions. Je ne vais pas rester ainsi. Décision d'aller vers Dieu, comme le fils prodigue, je ne vais pas rester là, j'irai. Futur. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Décision d'aller avouer sa faute. Il y va. Je t'ai fait connaître mon péché. C'est la flamme du psaume. C'est la lumière de notre vie. Quand quelqu'un fléchit le genou devant Dieu dans le secret de sa chambre, il dit, Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, j'ai commis une erreur. Seigneur, j'ai mal dirigé ma vie. Seigneur, tu peux encore me prendre dans ta main et me sauver. Mais ça, c'est un des sommets de l'existence. Mais il faut un effort de volonté. Il faut dépasser un certain amour propre où devant les autres, on fait toujours le beau. Alors devant Dieu, nous sommes tels que je suis sans rien à moi, je viens à toi, agneau de Dieu. Conséquence de l'aveu, conséquence d'avoir avoué, et tu m'as pardonné. Rapide. Dieu ne nous demande pas de passer par toutes sortes de pèlerinages et de réparations et de pénitences. Et tu m'as pardonné. Mais David ne dit pas que Dieu l'a pardonné seulement parce qu'il a avoué. Attention. David ne dit pas que Dieu s'est contenté seulement de son aveu pour tout régler. Ce n'est pas écrit. Moi, je pense que quand on avoue ses péchés à Dieu, ben, il faut changer de comportement. On appelle ça chez nous la repentance. On dit, Seigneur, maintenant, je ne veux plus refaire les mêmes chutes, les mêmes erreurs. Et puis, ce péché-là, tu l'avoues au Seigneur, mais que va en faire le Seigneur ? Il faut qu'il règle le problème, lui. Et ce péché, il va le mettre sur le Christ qui porte le péché du monde. Donc l'aveu n'est pas suffisant. Il faut de ma part un changement de comportement. Et il faut que Dieu, lui, de son côté, règle le problème. Mais ce psaume est beau parce que c'est la relation avec Dieu. On avoue et il pardonne. On lui dit et il nous dit « tu es pardonné ». On apporte notre fardeau et il nous en délivre. Tant qu'il y a du remords, c'est un monologue. Je regrette, j'aurais pas dû, qu'est-ce que j'ai fait là, je suis bête, pourquoi j'ai fait ça, le remords. On se parle à soi-même, c'est un monologue. Et le pardon, c'est un dialogue. On s'adresse à Dieu, j'attends quelque chose de lui. Et Dieu attend quelque chose de moi. Il attend la vérité et moi j'attends son pardon. On est deux dans le pardon. On est tout seul dans le remords. Des gens dans le remords en sont morts. Ont été jusqu'au suicide, comme Judas. Dans le pardon, on rencontre quelqu'un qui nous prend dans ses bras. Ainsi, dit David, on a lu au verset 6, ainsi que tout homme te prie, ainsi que tout homme se te prie, au temps convenable, et si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Ainsi que tout homme prie en reconnaissant cette heure, et en accueillant ton pardon. Il faut rentrer en soi-même pour rentrer en Dieu. Il faut se mettre dans la prière. Notre Père, pardonne-nous, donne-nous, délivre-nous, ne nous conduis pas, ne nous fais pas entrer en tentation. Il faut se mettre dans la prière. Votre vie est vitale, importante, unique. Alors, dit David, si nous prions en remettant nos vies entre les mains du merveilleux Sauveur, les grandes eaux, je pense au déluge, les grandes eaux, je pense au tsunami, les grandes eaux de quoi ? La Bosnie est sous les eaux, jusqu'au toit, jusqu'aux cheminées. Quelle horreur, terrifiant. Les grandes eaux, je pense que ça concerne surtout les grandes eaux de l'angoisse, les grandes eaux du remords, les grandes eaux de la colère, de la dépression, de la condamnation de Dieu. Ne pourront pas le submerger, ne pourront pas éteindre sa flamme, sa paix, sa joie. Si on se remet à Dieu, les grandes eaux ne peuvent pas nous détruire. Une maison bâtie sur le roc du pardon, c'est une maison solide qui ne craint pas l'inondation. Enfin, il y a des inondations dans la vie. Vous pouvez avoir un voisin au-dessus de chez vous qui oublie de fermer le robinet. Mais la maison qui est bâtie sur le pardon, elle ne craint pas la condamnation de Dieu. Le découragement extrême, la culpabilité maladive. Amen. Et puis David, ensuite, dans le psaume, il nous fait entendre la voix de Dieu. C'est assez rare dans les psaumes. Verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai. » C'est beau. Il est magnifique ce verset. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » Pardonnez-moi. « Si vous tombez dans la boue, ça m'est arrivé, et vous, quand vous étiez enfant, avec un beau costume tout neuf en plus, si vous tombez dans la boue, je pense que le Seigneur est capable de vous donner un costume tout neuf, spirituellement, je m'entends. Mais il va peut-être nous apprendre à ne pas tomber dans la boue, vous comprenez ? Il va nous dire maintenant, quand tu vas marcher, tu vas éviter la boue. Tu vas passer au large. Je te montrerai la voie que tu dois suivre pour ne pas retomber à nouveau dans le péché, avec le remords, etc., etc. Secret du bonheur, vous voulez le savoir ? Écoutez le Seigneur sans cesse. Mes brebis entendent ma voix. Quitte à revenir toujours dans le bon chemin, sans honte, sans crainte, sans rougir, pour éviter la tyrannie du mal, car le mal est un filet qui se resserre sur celui qui tombe dedans. Quitte à revenir chaque jour, pardonne-nous nos offenses chaque jour. Écoutez la voix de Dieu. Et puis, le secret du bonheur, c'est de savoir que les yeux du Seigneur sont sur nous. J'aurai le regard sur toi. Ça veut dire qu'il sait où je suis. Il connaît mes déplacements, mes marches, parfois les risques que je prends. Il va tout faire pour que je puisse bien marcher dans ce monde, d'une manière forte et belle et propre et lumineuse. Et c'est vrai que parfois, je pense au cheval et au mulet, là, il y a un cheval et un mulet dans l'histoire. On leur met dans la bouche un mort. Ça ne doit pas être agréable quand même. Comme ça, on les tient. On les tient pour ne pas qu'ils s'emballent. Le cheval fou, le cheval fougueux. Ou le mulet sans intelligence qui ne marche jamais, qui va toujours là où il ne faut pas aller. Enfin, et il y a le cavalier qui tient tout ce petit monde-là. Alors, le psaume semble nous dire « Ne fais pas l'âne. Ne fais pas l'âne, disait mon père, ne fais pas l'âne. » Ça veut dire qu'on ne soit pas obligé de te serrer la vis, qu'on ne soit pas obligé de te tirer, de te reprendre. Mais écoute bien les conseils de ta mère, écoute bien les conseils du Seigneur, afin qu'il ne soit pas obligé de te retenir par la force. Pour ton bien. Vous avez compris ? Ne pas être attentif, parfois, nous met dans des complications et le Seigneur, là, il les utilise pour nous conduire dans la bonne voie. Notre plus grand péché, donc, je conclus, c'est être fâché contre celui qui pardonne nos péchés et qui peut nous secourir. Ne pas chercher le pardon. Ce n'est pas le péché en lui-même, car le Christ est mort pour tous les péchés du monde. Mais c'est de refuser le pardon du Christ. Et ce psaume nous montre les soins de Dieu. le secouriste du ciel et de la terre. Il écoute nos gémissements. Il en a écouté. Hein. Il pardonne. Il relève son enfant. Il l'éduque. Il le surveille. Il le réjouit. Il le sauve. Amen et bravo. Ne cachons rien à Dieu. Même si nos péchés sont nombreux comme l'herbe dans la prairie, même si nos péchés sont nombreux comme les grains de sable au bord de la mer, ne cachons rien à Dieu. Dieu est un Dieu qui pardonne et qui nous instruit. Amen. Allons à lui en toute assurance. Ce psaume, voyez-vous, m'amène au fils prodigue, pas vous ? Vous ne trouvez pas ? Qui a réfléchi, qui a eu des remords et qui est revenu. Ce psaume m'amène à Zachée. Vous ne trouvez pas ? Qui, de temps en temps, arrondissait les angles, mettait des virgules là où il ne fallait pas, se servait assez copieusement dans les impôts. Mais qui s'est repenti, qui a changé devant la lumière du Christ. Ce psaume me fait penser à Pierre, qui renie Jésus publiquement devant Dieu et devant les hommes, et qui va pleurer, et qui va regretter, et qui va revenir dans le remords. Ce psaume me fait penser à la femme adultère, qui est aux pieds de Jésus, jetée comme un sac de chiffon par des gens bien, enfin en apparence, parce que personne n'a pu résister à la parole du Christ que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Ce psaume me fait penser à Jésus. Il m'amène à Jésus, car cet homme dont le corps se consume toute la journée du vendredi saint, cet homme qui gémit toute la journée, cet homme dont la vigueur est comme la sécheresse de l'été, cet homme qui descend dans les grandes eaux de la mort et personne ne peut le retenir, cet homme, c'est Jésus qui prend le péché sur lui, qui l'ôte, il le met sur lui comme s'il l'avait commis, disait Martin Luther, pour le jeter dans son amour et dans sa mort, afin de nous en délivrer éternellement. Amen. Merci au Christ, présent visiblement dans ce psaume. Et merci parce que nos péchés, nous qui gémissons, on peut les mettre sur le Christ, car c'est un Dieu qui pardonne. Si nous avons péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ. Si quelqu'un confesse ses péchés, le Seigneur est fidèle, il est droit, il ne va pas dévier de sa route, il nous pardonnera et il nous conduira vers son Père. Amen. Eh bien, allons à lui en toute assurance. À nos problèmes, il répondra. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons vers toi, Seigneur, pour être dégagés de nos fardeaux, pour déposer sur toi nos soucis et nos péchés, nos erreurs, nos manquements, mais déposer aussi sur toi la souffrance qui nous accable, le souci qui nous torture l'esprit et qui nous empêche de voir l'espérance, de voir demain, de voir les choses meilleures. Nous déposons sur toi notre vie, tout ce qui est corps, âme, esprit, tout ce qui est dans nos relations, tout ce qui est notre existence d'homme, de femme d'aujourd'hui, nous la déposons entre tes mains, car souvent nous gémissons, souvent nous sommes accablés, nous sommes lourds, nous nous sentons appesantis, nous nous déposons nous-mêmes entre tes bras. Seigneur, ressuscite-nous, répare-nous, relève-nous, car tu es le Dieu qui pardonne, tu nous as donné le Seigneur, il est avec nous, merci Seigneur, Amen.